Et au sommaire de ces conversations avec Daniel Habert aujourd'hui, eh bien, on aborde le sujet des tractations politiques autour de la situation au Proche-Orient et plus particulièrement d'Israël, vous vous en doutez. On retrouve donc Daniel Habert au micro, bien évidemment, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour de nouvelles conversations. Alors, Daniel Habert, nous avons assisté à l'intronisation du président Donald Trump. On attend ses initiatives au Moyen-Orient. Il y a ces deux cessez-le-feu. Alors, comment peut-on définir actuellement la situation géopolitique au Moyen-Orient?
Oui, ben nous vivons un moment d'attente, comme souvent en géopolitique, il y a des moments forts et des moments plus calmes. Mais ces moments d'attente sont riches en fait en événements et je vais essayer de vous l'expliquer. Premièrement, Trump, maintenant qu'il est au pouvoir, a beaucoup de priorités. On voit bien et que ça, la priorité pour le Moyen-Orient, elle est forte, mais elle est dépassée par des priorités pour l'Amérique, hein, America First, la question des migrants, la question aussi de la guerre commerciale qui a déjà commencé. Alors nous, on a compris que c'est pas seulement avec la Chine qu'il imposait des droits de douane, mais avec ses voisins mexicains et canadiens. On sait que la Russie, c'est sa préoccupation principale. Il a la Chine comme défi majeur. Donc le Moyen-Orient est important, mais il n'est pas le plus important. Ou disons qu'il n'est pas le plus urgent. Et donc, ce qu'a fait Trump, d'une certaine manière, c'est de dire, quand j'arriverai, moi, au Moyen-Orient, je ne parlerai qu'à des États. Je ne veux pas parler avec des milices. Donc que tout ce qui concerne les milices, les opérations militaires avec les milices, réglez-les de votre côté pour que, au fond, pour déblayer un petit peu le terrain, pour que lorsque j'arrive, je puisse m'adresser uniquement à l'Iran. C'est déjà assez compliqué. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé, avant même d'être président, dans la période intérimaire, il a envoyé en liaison avec Biden et les gens de Biden, il a envoyé des émissaires un petit peu partout pour mettre au point ces deux cessez-le-feu qui sont en cours au nord avec le Hezbollah au mois de novembre et puis en janvier avec le Hamas. Et donc voilà, c'est un peu c'était ça la motivation de ces deux cessez-le-feu. Il faut que ce soit réalisé avant même qu'il arrive.
Ces deux cessez-le-feu, justement, hein, ils sont controversés, Daniel Habert. Quelle est la bonne analyse à adopter?
Bien sûr qu'ils sont controversés parce que encore une fois, quand tout accord, tout compromis, ça oblige à des sacrifices terribles. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que Israël peut vivre avec les inconvénients de ces deux cessez-le-feu et engranger les bénéfices de ces deux cessez-le-feu. On va essayer de le voir. Commençons par le nord. Le Hezbollah, finalement, s'était vu imposer en 2006 par une résolution du Conseil de sécurité de se retirer de toute la région sud du Liban, derrière le Litani, et il l'a jamais fait. Et Israël a réussi à faire adopter un cessez-le-feu qui a pour objectif de les faire reculer. Et donc c'est en train de se faire. Ça aurait dû être fait le 27 janvier. C'était pas fait. Et c'était pas fait parce que c'est compliqué de se retirer. Chacun attend que l'autre commence. On peut pas attendre des terroristes qui se comportent autrement que comme des terroristes, c'est-à-dire en trichant, en essayant de cacher des armes, en essayant de retarder le moment. C'est comme ça que ça se passe et on le savait. Et c'est pour ça qu'Israël avait imposé des conditions qui est de dire, nous, on peut recommencer à frapper. Et ils ont frappé plusieurs fois pendant cette période dite de cessez-le-feu. Et donc, on l'a prolongé jusqu'au 18 février. Et donc, on peut espérer qu'à la fin de la période, le Hezbollah soit retiré au nord. Et évidemment, Israël, les troupes d'Israël sont sorties du Liban et seront revenues en Israël. Alors, évidemment, le Hezbollah n'a pas été détruit, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de pouvoir faire, au fond, revenir les milliers d'Israéliens qui ont dû quitter leurs maisons, leurs fermes, leurs usines du nord. Alors certains ont commencé déjà à revenir, mais donc il faut qu'ils puissent venir revenir dans leur maison en toute sécurité. Pour ça, il faut que les troupes du Hezbollah soient retirées au nord du Italie. Donc, au fond, c'est une opération qui permet à Israël d'envisager de se désengager un tout petit peu, d'avoir moins de troupes engagées au nord. Et donc, je pense que c'est quelque chose avec lequel c'est vivable. Par contre, pour Gaza, c'est plus controversé parce que évidemment, la deuxième phase qui commence à être négociée en ce moment implique que non seulement il y a un échange d'otages, mais qu'Israël doit se retirer complètement de Gaza. Et donc ça, c'est un petit peu contraire à l'objectif de Tsahal, qui était de éradiquer le Hamas. Bon, le Hamas sera pas éradiqué parce qu'on n'éradique pas des terroristes. Il y aura encore des terroristes du djihad, de Daesh qui colorent et même d'Al-Qaïda. Donc on voit bien qu'il y a toujours des restes. Mais enfin, le Hamas a été suffisamment touché pour qu'on dise aujourd'hui qu'il ne représente plus une vraie menace. D'ailleurs, il y a par exemple, il n'y a plus de lancement de roquettes, d'abord parce qu'ils n'en ont plus, et parce qu'ils sont plus capables de le faire. Donc les soldats du Hezbollah qu'on voit en costume entourant les otages, ils sont inopérationnels. Ils ont des mitraillettes, mais ça sert à rien. Donc si vous voulez, la seule chose qu'on puisse dire de négatif, puis je vais passer au positif, le négatif, c'est que il est possible qu'à l'issue de la deuxième phase, on puisse dire que le Gaza que le Hamas continue de contrôler Gaza, ne serait-ce que parce qu'il contrôle l'aide humanitaire. C'est lui qui s'occupe des camions, de la distribution. J'ai l'impression que ça arrange tout le monde, que ce soit le Hamas qu'il fait, parce que quand c'était pas le Hamas, c'était des bandes de gangsters, donc c'était encore pire. Et quant à Israël, il n'est pas organisé, la Tzal n'est pas organisée pour assurer la distribution de tout ça. Donc on peut vivre avec un Hamas qui organise la vie civile de Gaza en attendant une solution qu'on appelle du jour d'après. Et puis donc on peut dégager aussi des troupes maintenant, etc. Et puis enfin, écoutez, il suffit d'avoir la joie des familles qui récupèrent les otages pour se dire que il était temps qu'on accorde au peuple israélien qui a beaucoup souffert un peu de ce soulagement de retirer de retrouver des otages, même si on sait qu'il y en a encore, et que ceux qu'on a rendus, ceux qui étaient en meilleure forme. Donc, cette deuxième phase de négociation, elle est en cours. Est-ce qu'elle débouchera? Je pense que oui. Et au fond, la conclusion, c'est que ces deux cessez-le-feu permettent à Israël de récupérer un certain nombre de troupes, de démobiliser des troupes, de les renvoyer dans leur foyer, de refaire démarrer l'économie. Tout récemment, le patronat israélien disait qu'Israël s'en sort pas trop mal sur le plan économique, qu'il y aura de la croissance globale. La high-tech continue à faire parler d'elle, donc ça marche bien. Et puis le shekel, on le voit, il est très fort. Donc ça, c'est le signe que l'économie ne va pas trop mal. Et puis surtout, et ça sera la conclusion de cette analyse de ces deux cessez-le-feu, ça permet de retirer des troupes pour les focaliser sur le terrain. Le théâtre qui est le plus dangereux aujourd'hui pour Israël, c'est la Judée-Samarie. Car en Cisjordanie aujourd'hui, il y a des milices du Hamas, du djihad islamique et d'autres qui sont absolument pas contrôlés par l'autorité palestinienne, qui ne peuvent être contrôlés que par les troupes de Tsahal, et qui sont le pire endroit où se préparent les attentats, etc. Donc, pour éviter que la Cisjordanie devienne le nouveau Gaza, l'endroit d'où partiraient des roquettes, il faut une présence militaire israélienne plus active, et donc c'est bien qu'ils puissent les retirer de ces deux, du nord et du sud.
Alors, Daniel, une question peut-être légitime qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on analyse cette situation sécuritaire globale d'Israël? Est-ce qu'elle est plus en danger qu'avant le 7 octobre?
Non, pas du tout. Aujourd'hui, du point de vue israélien, ils le clament pas, mais la situation sécuritaire est apaisée, elle est bonne. Il y a eu un grand moment de vulnérabilité le 7 octobre, et ce fut un déluge de à la fois médiatique et d'attaques du Hezbollah, des Houthis, etc. Oui, on n'en entend plus parler. Donc la sécurité d'Israël, elle a été rétablie parce que sa capacité de dissuasion a été totalement rétabli à partir du 1er avril, je le rappelle, avec la mort des généraux iraniens à Damas, et avec la décapitation des deux mouvements les plus dangereux, des deux milices les plus dangereuses, le Hamas et le Hezbollah. Ils n'ont plus de leader. Alors ils en ont trouvé des leaders de remplacement, mais c'est pas la même chose. Et donc les exploits d'Israël depuis le 1er avril a convaincu surtout les voisins arabes avec qui va bien falloir reprendre le dialogue, l'Arabie Saoudite notamment, qui sera à récupérer sa force de situation, la force de dissuasion. Et donc, je pense que si la situation économique tient le coup, si la situation sécuritaire tient le coup, on peut dire qu'Israël est en bonne position au moment où vont s'engager la véritable négociation, c'est avec l'Iran, puisque au fond tout l'objectif à partir du 1er avril a été pour Israël de montrer que certes, il y avait des ennemis partout, mais que l'ennemi, c'était l'Iran. Et que seul, soit un accord avec l'Iran peut faire taire les autres affiliés de l'Iran. Et s'il n'y a pas d'accord, il faut que les Américains et Israël puissent brandir la menace de bombardement de sites nucléaires. Donc je pense que au moment où Trump lancera l'initiative, je crois qu'en même temps, on se préparera sur le plan militaire, conjointement États-Unis, Israël, mais ça sera Israël qui mènera les frappes, parce que les Américains, surtout les Américains de Trump, ne veulent pas être mêlés directement à des actions militaires, mais ils livreront les armements qu'il faut et ils seront en support derrière pour que face à l'Iran, on dit voilà, c'est soit une négociation de paix qui a un sens, pas le traité de 2015 qui n'en avait pas, un vrai traité, un nouveau, et ça sera compliqué à faire, on aura bien d'occasion d'en reparler, soit c'est l'action militaire d'Israël que nous soutiendrons. Voilà un petit peu la situation qui est plutôt bonne, même si je le répète, pour conclure, qu'Israël se garde bien de crier victoire, parce que c'est un mot compliqué quand on a encore des otages et qu'on a payé un prix si élevé.
Eh bien, nous aurons l'occasion de revenir, hein, sur cette situation. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous ce matin dans nos conversations. On se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine, au revoir.